Vous êtes sur RTL.
Les 12h30.
RTL.
La première fois que je suis venu ici, j'avais 16-17 ans. Et je me souviens, je me suis dit, mais c'est là que je veux vivre. Et vraiment, je suis Marseillais, je me sens Marseillais.
Marseille, je marche souvent seul dans tes rues. Et trop souvent, j'y ai disparu.
Le journal inattendu.
Quand vous écrivez des romans, une sorte de devoir d'impudeur. Alors évidemment, à la fin, il ne reste plus grand-chose de vous. C'est sûr que c'est un peu contradictoire avec l'image qu'on peut avoir. Mais qu'est-ce que c'est l'image? Mais quel est l'intérêt? Vous voyez, moi, je m'en fous de mon image. Un bon roman, je suis désolé, il n'y a pas de technique. Il n'y en a pas. Ça doit venir du ciel, des tribes, de la terre. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient comme ça.
12h30, 13h30.
Mais ça, c'est l'hypocrisie. On vit dans un monde de tartuffes. On mange de la viande, on ne sait pas ce que c'est, d'où ça vient. Les bêtes sont tuées en France dans des conditions abominables. Je déteste, comment dire, la souffrance, la violence, le sadisme aussi, qu'on peut voir aussi dans les abattoirs. Allez-y, vous verrez. Moi, j'y suis allé souvent. C'est à gerber.
Le journal inattendu de Franz-Olivier Gisbert avec Vincent Parisot sur RTL.
Bonjour Franz-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Merci d'être pour une heure le rédacteur en chef de Journal Inattendu, vous qui l'avez été pour tant de journaux et d'hebdo, et l'aide d'ailleurs encore, en tant que directeur éditorial de La Provence, c'est ça?
Éditorialiste de la...
Voilà.
Du Point.
Voilà, c'est ça. Et éditorialiste du Point, on va y revenir. On va parler du journaliste, du chroniqueur, de l'observateur politique, qui ne mâche pas ses mots, du sociétaire des grosses têtes aussi.
Ah
vous
oui
avez, vous avez votre
j'adore,
temps de serviette,
ah, j'adore, ici. J'adore, oui.
Et puis on va parler de l'écrivain, de l'auteur de ce dernier été, publié chez Gallimard. J'ai envie de dire roman d'anticipation féroce et drôle qui se déroule chez vous à Marseille en 2030 sous un climat dans tous les sens du terme très étouffant. On va donc évoquer ce dernier été, mais aussi parler de votre univers où l'on devrait croiser vos auteurs préférés, mais aussi le regretté Christophe ou encore le philosophe Michel Onfray. Il lance une revue intitulée Front Populaire qui fait déjà beaucoup parler. Vous prenez sa défense cette semaine dans un éditorial du Point, Michel Onfray et les Inquisiteurs. Il sera tout à l'heure à votre invité, donc après 13h. Mais avant cela, les infos, vous allez pouvoir commenter dans un instant, j'en suis certain. Il faut, cher Fogg, vous tirer le portrait.
Ah
oui, c'est maintenant.
C'est maintenant. D'abord, le premier point, c'est que je ne m'aime pas beaucoup. Et quand il faut faire mon portrait, là, vous m'avez demandé, effectivement, j'ai eu du mal à préparer, j'ai pas préparé, j'ai sans arrêt reculé. Mmh. Et quand je suis arrivé ici, j'avais même oublié. Mmh. Donc, vous voyez, c'est moi, ça, tout à fait.
Bon, vous aimez pas parce que vous ne voyez que vos défauts?
Non, parce que je crois que ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance qui était un peu compliquée, qui était à la fois joyeuse et puis qui était aussi dure. Parce
avec
que j'avais
un papa
un peu violent, qui avait fait le débarquement, dans un GI américain, qui avait beaucoup souffert de ce débarquement, tous ses copains étaient morts, sauf lui. Donc il avait la culpabilité du survivant, il a vécu avec ça tout au long. Et donc, papa américain, né aux États-Unis, j'ai été élevé en Normandie, ma mère était normande, ma mère était catho, mon père anticlérical. Enfin, il y avait vraiment une contradiction entre les deux, mais ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Mmh. Et je suis le produit de ça, et je suis un mélange des deux, de toute façon, et je me rends compte aujourd'hui, évidemment, à quel point je ressemble à mon père. Voilà. Ça vous va comme portrait?
C'est pas mal, parce que vous dites mère catho et père anticlérical. Anticlérical, ça fait de vous un peu ce que je dirais un catho libertaire?
Ouais, un peu peut-être, mais catho, je dirais plutôt croyant, parce que je serais, au Moyen-Âge, j'aurais été brûlé sur un bûcher. Et puis alors, aussi, très important, la campagne, c'est-à-dire j'ai été élevé à la ferme par des parents bio, bobo avant l'heure, ils avaient acheté une ferme, j'étais élevé là, j'avais des copains fermiers, j'ai vécu mon enfance dans l'herbe au milieu des animaux.
D'où votre rapport aux animaux et à ce qui est
c'est
un
sûr,
peu aujourd'hui
sûr, ça vient là,
un
oui,
de vos
ça
combats.
Et c'est toujours, j'ai toujours ce même rapport avec la nature.
Et puis évidemment, l'info, ça c'est avec vous, l'actualité, le
j'adore
journalisme.
L'info, ça m'a... Moi je voulais être écrivain, puis je suis tombé par hasard dans le journalisme et j'ai pu quitter, c'est formidable, c'est un métier formidable.
Et l'info justement, vous allez pouvoir la commenter, cette actualité dominée par cette nouvelle nuit de colère et de manif d'émeute également aux États-Unis après la mort d'un Américain. mannequin noir lors de son interpellation à Minneapolis. L'inculpation du policier responsable pour homicide involontaire n'a pas calmé les esprits. Nous serons avec l'envoyé spécial d'RTL à Minneapolis. Une nouvelle mobilisation des salariés de Renault à Maubeuge devant l'usine qui est à l'arrêt depuis hier. Plusieurs milliers de personnes dénoncent le plan du constructeur qui prévoit 4500 suppressions d'emplois en France. Une partie de la production du site de Maubeuge sera transférée à Douai. Un front républicain annoncé à Perpignan pour le second tour des municipales. La candidate écologiste se retire. Un devoir de salubrité publique, dit-elle, le sortant donc. Le républicain Jean-Marc Pujol défiera Louis Alliot du Rassemblement National arrivé en tête. La poursuite du déconfinement dans les anciennes zones rouges. Les parcs et les jardins sont de nouveau ouverts à Paris. Et puis, symbole de la reprise du commerce, on peut de nouveau faire ses courses aux galeries de Lafayette. En tout cas, Santé publique France se veut confiant. Pas de signaux de reprise de l'épidémie. Et puis en plus, il fait grand beau, Valérie Quintin.
C'est vrai qu'il fait beau partout, ça va être le cas tout l'après-midi, mais pas exactement partout, parce que dans le sud-est, on a déjà quelques petites averses orageuses sur les hauteurs varoises. Ça va se confirmer, ça va tourner à l'orage cet après-midi et ce soir entre le sud des Alpes et la Corse. Ça pourra d'ailleurs claquer assez fort localement. Et on aura aussi quelques orages en toute fin de journée sur les reliefs du Massif central ou encore des Pyrénées. Pour tous les autres, c'est du ciel bleu jusqu'à ce soir et ce sera le cas aussi demain. Quant aux températures, elles sont très estivales. 23 degrés attendus à Nancy et Ajaccio cet après-midi, 25 à Lyon et à Toulon, 26 degrés pour Lille, 27 à Paris, 28 à Nantes, 29 degrés à Toulouse et 30 à Bordeaux.
Voilà, vous pouvez aller déjeuner parce que la météo de 13h, ça sera l'œuvre de Franz-Olivier Gisbert.
Mais j'écouterai.
Le journal inattendu sur RTL.
La colère suscitée par la mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors de son interpellation à Minneapolis, n'est donc pas retombée et la nuit a été marquée par de nouvelles émeutes dans cette ville du Minnesota, mais aussi dans de nombreuses autres villes aux États-Unis. C'est bien sûr donc à Minneapolis où 500 soldats de la garde nationale ont été déployés que les tensions ont été les plus vives. Quatrième nuit consécutive d'émeutes. Mais preuve que ce drame résonne dans toutes les États-Unis. Certains ont fait des centaines de kilomètres pour venir expliquer leur colère sur place. À Minneapolis, l'envoyé spécial d'RTL, Philippe Corbet.
Jusque tard dans la nuit, alors que des dizaines de bâtiments du quartier étaient en flammes, la garde nationale et la police ont dû protéger un commissariat comme un fort retranché et disperser des protestataires avec des gaz lacrymogènes et des fusils qui tirent des balles en caoutchouc. Jay, 17 ans, était venu avec seulement un gilet de sauvetage sur le dos pour se protéger.
On a roulé pendant 9 heures depuis Chicago pour faire partie de l'histoire. Si on ne fait pas changer les choses, rien ne changera. On vient pacifiquement et les policiers sortent des grosses armes sans raison. Deux fois aujourd'hui, j'ai reçu 4 tirs de balles en caoutchouc.
À la ceinture de son gilet de sauvetage, Jay a accroché de grosses pierres.
Les pierres, il faut que je les lance. À chaque fois qu'ils nous blessent, nous devons les blesser en retour. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Si on ne fait rien, rien ne changera. Il faut qu'on se batte dans cette guerre. Nous sommes en guerre contre un système qui est injuste. Il est fait pour nous briser. C'est ce qu'ils essayent de faire, nous briser. Et on ne va pas les laisser faire.
Mais au fil de la nuit, les pillards ont pris nettement le dessus sur les protestataires.
Reportage à Minneapolis de Philippe Corbet. L'Américain qui sommeille en vous, Franz-Olivier Gisbert, il regarde quand même ce qui se passe avec un peu d'inquiétude.
Non, je suis jamais très inquiet sur l'Amérique, même si économiquement c'est un pays quand même qui va, comment dire, qui a quand même amorcé le déclin. Enfin, pas comme nous l'Europe, pas comme nous la France, parce que le déclin n'est pas encore là vraiment, mais ça vient, quoi. On voit bien par rapport à la Chine. Et il y a une angoisse, Mais le problème noir était un vrai problème et c'est un problème qui est toujours là. Mais ça a beaucoup avancé. Moi, je suis beaucoup allé là-bas dans les années 60-70. C'est pas du tout la même chose. Je veux dire, il y a plus ces ghettos. Bon, ça s'est amélioré, mais c'est toujours pas ça. Donc, il faut continuer à avancer. On voit bien que tous les présidents américains, jusqu'à présent, je dirais, jusqu'à Trump, parce que Trump, c'est pas trop son sujet, mais on peut dire que Reagan, qui était à droite, Clinton, qui était plus à gauche, Bush aussi, Bush a fait beaucoup d'avancées en installant des Noirs à des places, des postes clés partout, et puis évidemment Barack Obama. Évidemment. Tous ces gens-là ont fait avancer la cause, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et il y a autre chose aussi qui est important, qu'il faut bien comprendre aux États-Unis, c'est aussi la place du policier. Le policier est tout permis. Moi,
il faut pas râler quand on se fait interpeller.
Ah ben ça m'est arrivé, c'est monstrueux, quoi. Ça se termine avec des fouilles au corps, des coups de pied au cul. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Mais ça m'est arrivé une nuit il y a très longtemps pour un excès de vitesse. J'avais mal parlé. C'est très très mal. Ça a très mal fini.
Évoquons la crise économique, alors qui concerne évidemment les États-Unis, mais aussi bien sûr l'Europe, la France, notamment dans le secteur automobile. Jean-Dominique Sénard, notez-le, le patron de Renault sera demain l'invité du grand jury RTL. RTL, Le Figaro et LCI. Et il devrait donner donc des précisions sur les restructurations annoncées. Je vous rappelle, 15 000 emplois supprimés dans le monde par Renault, dont 4 600 en France. Le site de Choisy-le-Roi sera fermé. Celui de Flins devrait être arrêté après 2024. Et puis l'inquiétude également est forte à Maubeuge, puisque le constructeur envisage de transférer la production des Kangoo électriques à Douai, à environ 70 km de là. Et du coup, une manifestation a eu lieu ce matin avec un grand nombre de participants. Vous étiez avec eux, Antoine Decarne.
Oui, plusieurs milliers de personnes réunies dans un cortège masqué. Au premier rang, syndicats et élus de toute la région sont présents pour mener le combat.
On est là pour sauver l'usine. Ça pourrait supprimer plus de 12 000 emplois. Et nous, on ne veut pas.
Sur la banderole de tête, un message. Sénart, trahison. Macron tient ta parole. Une invective au PDG de Renault-Nissan et au chef de l'État, Arnaud Decagny, et le maire de Maubeuge.
Monsieur Sénart est venu sur le site il y a au mois de septembre dernier. Il a dit aux salariés qu'il était fier d'eux, que c'était la plus grande reprise, qu'il ne risquait rien. C'est aussi au président de la République qui est venu il y a moins de 2 ans. Et aujourd'hui, tenez vos engagements.
Car pour les employés de MCA, la menace est importante. La possibilité annoncée de délocaliser la production à Douai serait un cauchemar.
Je viens de construire ma maison ici. Je ne peux pas me permettre de faire 130 km aller pour aller à Douai. Quoi.
C'est incompréhensible, c'est un choc total. C'est arrivé d'un coup en plus, donc il ne faut pas lâcher. Et nous, on tiendra jusqu'au bout.
Et dans le cortège, il y a d'autres salariés d'usines sous-traitantes qui ont également leur emploi en jeu.
Là derrière vous, c'est tous les sous-traitants d'MCA. Et si le site MCA ferme, nous, ça sera pareil pour nous. Il n'y a plus rien dans le secteur. Terminé.
C'est donc tout un territoire qui tremble et la mobilisation se poursuit encore ce midi devant l'hôtel de ville de Maubeuge.
Reportage Antoine Decarne. Et puis une info politique. Revoilà le Front Républicain. Là, c'est à Perpignan où la candidate écologiste Agnès Langevin, qui était arrivée troisième avec 14,5% des voix au premier tour, donc qui pouvait se maintenir, décide de son retrait, ce qu'avait déjà fait avant-hier le candidat de La République En Marche. Résultat, Louis Alliot sera opposé au candidat des Républicains au deuxième tour, Louis Alliot, qui avait obtenu 35,6% des suffrages au premier tour. Il était arrivé en tête et qui avait déjà été battu par un Front Républicain en 2014.
Ouais, ben enfin, on voit bien que les fonds Républicains ont tendance à de moins en moins bien marcher.
Ouais,
hein, donc... Ça, je crois que oui, ça va peut-être être plus compliqué cette fois-ci.
Ben, donc on verra le résultat, puisque le deuxième tour des élections municipales, c'est, si ma mémoire est bonne, le 28 juin.
Ouais.
On marque une pause et dans un instant, on va respirer un peu. Les espaces verts sont de nouveau ouverts à Paris. À tout de suite.
Ah, enfin.
Le journal inattendu sur RTL avec Franz-Olivier Gisbert et Vincent Parisot.
Oui, Franz-Olivier Gisbert qui est ravi parce qu'il va pouvoir de nouveau aller se promener dans les parcs et jardins des anciennes zones rouges, notamment Paris, qui donc ont pu de nouveau ouvrir aujourd'hui de la verdure et de l'espace qui avait tant manqué pendant le confinement et qui, sous un beau soleil estival, ont dû faire le bonheur des promeneurs. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Oh, vous êtes au parc des Buttes-Chaumont, c'est ça, dans le nord de la capitale?
Oui, où il n'est pas rare de voir des Parisiens lever les bras au ciel, respirer un grand coup. Géraldine, je vous vois éclater de rire en regardant votre mari se rouler dans l'herbe avec votre enfant.
Ça fait un peu comme des petits chiens, mais c'est pas grave. En fait, on respire dans Paris. Je peux vous dire que le confinement, on l'a bien senti.
On n'en pouvait plus, c'est ça?
C'est bizarre, on a tenu 2 mois et demi, 3 mois. Et pour quelques jours, on n'en pouvait plus. On voyait le parc, il était là, il était tout florissant. On va bien profiter, et puis après, on déjeunera à la maison et on ressortira peut-être juste marcher, quoi.
Alors que d'autres, juste derrière, ont déjà installé la serviette pour pique-niquer. C'est votre cas, Pauline.
Un peu de charcuterie, du fromage, des chips pour les enfants et profiter des tomates cerises un petit peu. Toujours avec un soupçon de prendre attention, le gel, le masque, etc. Mais ça fait beaucoup de bien. Aux enfants, donc aux parents.
Bon, écoutez, pour le déconfinement, c'est la recette idéale. Là, ça nous permet de relancer un peu la belle saison et d'enfin profiter après ces 2 mois un peu compliqués.
On reste plus qu'à attendre le retour des enfants qui sont partis saluer les canards. Voilà, une famille qui, comme beaucoup ici, fait le choix de venir tôt pour éviter la foule de cet après-midi, bien décidée à profiter pleinement du soleil parisien.
Merci beaucoup. Et il va en profiter aussi du soleil. Franz-Olivier Gisbert qui me confiait qu'il avait la main verte.
Oui.
C'est vrai, vous êtes doué pour le jardinage.
Non, mais ça vient de ma mère, ça.
Ah, bah, d'accord. Ah,
oui. De toute façon, jardinage, je jardine avec elle. Oui, c'était le potager, tout ça. Ouais.
L'actualité, bien sûr. Tomate. C'est cette nouvelle qui nous a tous attristés, et vous, je sais particulièrement, jeudi, la disparition de Guy Bedos. Disparition dont il parlait d'ailleurs très bien lui-même sur scène en 95.
Bon, allez, ça y est, admettons, fait, je suis mort. C'est là que pour mon entourage, les vrais ennuis commencent, car, chiant comme je suis, je ne veux ni être enterré, La seule idée qu'à peine canée, on me balance des tombereaux de gadou dans la gueule, même agrémenté des quelques misérables roses que ne manqueront pas de m'expédier les rares amis que j'ai à la direction du Parti Socialiste, me fait littéralement horreur. Non, non et non, je ne veux pas un commentaire, je ne veux pas. Et démerdez-vous avec ça, je ne veux pas non plus qu'on m'incinère.
C'est magnifique.
Ah oui, oui,
c'est magnifique. Ah, j'imagine, vous le connaissiez bien, Guy.
Oui, pas mal, on s'en a mis plein la gueule, certaines époques. Mais moi, je fais partie de ces gens, vous savez, on se répond. J'ai répondu d'ailleurs souvent violemment, il faisait un peu la gueule, ou il me renvoyait une autre vanne, je renvoyais une après. Mais on s'aimait bien, j'aimais beaucoup. Et puis, puis je l'ai connu aussi à travers son fils, puisque j'ai fait travailler son fils Nicolas.
Vous êtes très lié à Nicolas Bedos.
Oh, c'est un génie pour moi, c'est pas seulement un ami, mais c'est quelqu'un qui il est très au-dessus des autres, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, la relation qu'il avait avec Guy était, de ce point de vue, merveilleuse, parce qu'il y avait une forme sans doute plus ou moins d'agacement.
Vous avez fait une émission avec eux deux, c'était un peu comme un passage de témoin d'ailleurs.
Oui, tout à fait, et c'était très émouvant parce que Nicolas adorait son père, et son père était fier de lui quand même.
Ouais.
Hein, parce que même s'il sentait, disons... Oui, parce que je dis, Nicolas c'est autre chose, c'est pas seulement un humoriste, c'est un réalisateur, c'est un auteur, c'est un écrivain, c'est un
chroniqueur. Il est multitalent,
il a trop de talent, il a tous les talents, je répète, c'est un génie.
Il y en a un autre qui a pas mal de talent, c'est Franz-Olivier Gisbert, notamment celui d'écrire Dernier été, c'est son dernier roman, et on en parle dans un instant sur RTL.
Ensemble.
Le journal inattendu sur RTL, avec Franz-Olivier Gisbert et Vincent Parisot.
Ah, il fait même le commentaire à l'antenne.
Ah non, mais ça, j'adore
Rihanna.
Ah ouais.
Elle a une présence incroyable, une voix
incroyable. Et puis c'est une artiste tout-terrain. Enfin, c'est Michael Jackson féminin pour moi.
Ouais.
Tu vois.
Ouais. Alors c'est une chanson Love on the Brain qui est sur les amours toxiques, les amours qui peuvent être d'ailleurs un peu violents entre un homme et une femme. C'est aussi pour
ça. Elle connaît ça d'ailleurs.
Oui, parce qu'il y a eu cette histoire. Mais c'est aussi pour ça peut-être que cette chanson vous marque par rapport à vos parents.
Non, elle fait la synthèse entre le jazz, le rap. Il y a plusieurs personnages qui chantent, qui parlent dans la chanson. C'est formidable, c'est très très fort. Puis on voit que c'est elle qui parle, quoi. C'est très sincère. On sent la sincérité, c'est merveilleux dans une chanson quand on sent le chanteur est sincère, quoi.
Ouais,
ça sort des tripes.
Oui, bien sûr, totalement. Alors, puisqu'on est en train de parler d'amour avec cette chanson de Rihanna, vous citez beaucoup le grand poète persan Omar Khayyam.
J'adore.
Ouais.
Ah, j'ai connu dans une autre vie, j'ai connu une Iranienne qui m'a fait découvrir Omar Khayyam, et j'ai tout de suite adoré parce que c'est un grand poète persan des siècles passés, très ancien.
Ouais.
Musulman, mais qui adore les femmes, qui adore
le vin,
qui adore la luxure et qui adore le vin.
Ouais.
Voilà, c'est ça, qui adore l'amour et qui chante tout ça dans.
Ce qui fait qu'aujourd'hui en Iran, il n'est pas très bien vu. Hein.
Bon, il n'est pas très bien vu dans beaucoup dans certaines républiques islamiques, disons.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de musulmans qui l'adorent. Attention.
Votre première citation, donc, c'est d'Omar Khayyam. Vous dites, l'amour qui ne ravage pas n'est pas l'amour.
Qu'est-ce que c'est beau, ça.
Il n'y a pas d'amour heureux.
Ah non, c'est pas ce que je veux dire.
Ouais.
Ah non, et je pense pas. Je pense que c'est une dévastation. Ça enlève tout. Vous voyez, l'amour. Enfin, quand on a été amoureux, ça peut arriver plusieurs fois dans une vie.
Ouais, ça vous est arrivé plusieurs fois.
Il reste plus rien d'autre. Il reste plus rien d'autre. C'est ça que ça veut dire.
Ouais.
C'est pas que ça détruit. Ça détruit pas. Ça tue le reste.
Ouais. Alors il y a une histoire d'amour au cœur de ce nouveau roman Dernier été, on va y venir. Il y a aussi un contexte particulier, une terrible canicule liée évidemment au réchauffement climatique. On est en 2030. Il doit faire 50 degrés à Marseille. la mer, enfin voilà, le poisson cuit presque dans la mer. J'exagère un peu.
Il se passe des choses étranges en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même une canicule, pas encore tout à fait, mais on se demande si ça va pas finir par arriver en plein mois de juin, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche.
Ça, on a remarqué que depuis quelques temps, il y a quelque chose qui cloche.
Voilà. Ouais. Et puis en février, vous vous souvenez aussi, cette espèce de période comme ça, des grosses chaleurs qui ont duré une semaine. Enfin, on comprenait pas très bien.
Donc ça, c'est le climat, j'allais dire, atmosphérique. Il y a le virus aussi, le Covid 30, puisqu'on est en 2030, qui impose le port du masque, le gel hydroalcoolique, la distanciation. Pour boire un verre, on peut mettre du gel hydroalcoolique sur son verre de whisky. Pourquoi vous avez rebondi, vous avez voulu rebondir sur le virus? D'ailleurs, comment vous avez fait pour actualiser le livre en un temps record?
C'est assez facile. Le livre était fini et en fait, quand le coronavirus est arrivé, je me suis dit, mais enfin, ça va avec. Enfin, c'est tellement évident. Ouais. Ça manquait, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre. Mais je vais le rajouter. Et j'ai écrit ça au début de l'épidémie, quand ça a commencé à arriver en France. Et effectivement, ça s'est passé un peu comme je l'avais pensé. Simplement, évidemment, c'est pas un Covid aussi, enfin, qui frappe aussi fort que celui que nous avons vécu, là.
Il y a déjà les gestes, les barrières.
Et puis, on sent que, voilà, l'habitude est prise. Et puis, il y a le côté un peu comique, parce que c'est un livre drôle, évidemment. Moi, je m'amuse avec ça. C'est-à-dire, c'est un cri d'alarme. Ce livre, parce que bon, attention, où va-t-on, où va la société, où va notre France, notre pauvre France,
on va y venir.
Où va le monde, voilà. Ouais. Et puis je crois, oui, je tire la sonnette d'alarme sur tous les dangers que nous avons. Mais en même temps, c'est vrai, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Alors on va dire, ils rigolent dans le cimetière. Je dirais que la France n'est pas encore un cimetière. Loin de là, il s'en faut. Mais je pense qu'il faut aussi savoir rire. Mmh. Et je ris de tout. Je ris y compris d'ailleurs du Covid, puisque il y a ce on peut très bien imaginer ça, c'est-à-dire mission humanitaire de la Corée du Sud en France, parce qu'on n'arrive pas à se débrouiller.
Voilà, donc c'est la Corée du Sud qui vient nous aider.
Voilà. Ouais, ouais.
La vie que vous décrivez en 2030, la vie politique avec un président à vie qui termine tous ses discours par Allahu Akbar. La liberté d'expression avec un parquet national de la purification morale qui interdit les auteurs, parmi lesquels un certain Michel Onfray.
On n'est pas loin.
Mais on n'en est pas loin.
Oui, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je pense qu'il y a, vous voyez bien d'ailleurs, le journalisme. Moi, je dis que je mourrai journaliste. Je trouve que c'est un métier magnifique. Moi, je m'étais programmé pour être écrivain, mais vraiment, c'est un métier qui m'a pris, qui m'a envahi, qui m'a submergé. J'adore ce métier. Mais il y a quand même une perversion aujourd'hui. On voit très bien, c'est le jugement moral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métier consiste en grande partie à dire ça c'est gentil, ça c'est méchant. Lui il est gentil, lui il est méchant.
Mais c'est ce que fait Trump aussi en jugeant, les journalistes.
Attendez, c'est pas un journaliste.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a les bons et les mauvais.
C'est pas un exemple à suivre. Oui, bien sûr. Ben, c'est ce que font les journalistes en face de lui. D'ailleurs, ils ont peut-être commencé à le faire d'ailleurs avant qu'il arrive. Et je dirais d'une certaine manière, c'est le produit des médias. C'est le produit des médias parce que sans des médias aussi, comment dire, systématiques, je pense que d'ailleurs vous voyez très bien que quand il baisse dans les sondages, il fait des provocations contre les médias l'attaquent et il redevient populaire. Donc, d'ailleurs, si vous avez cette fracture aujourd'hui dans l'opinion française, dans l'opinion américaine, entre les médias et l'opinion, eh bien, c'est en grande partie parce que je pense qu'on fait mal notre métier. Notre métier, c'est de faire l'enquête, de faire des enquêtes et de faire parler tout le monde. Moi, je suis pour le journalisme contradictoire. Ben, ça m'arrive souvent, ben, je vous le disais tout à l'heure à propos de Guy Baudos, c'est pas grave, on peut s'engueuler, on n'est pas d'accord, on le dit, et puis voilà, et puis la vie continue. Et puis d'abord, on est d'accord sur l'essentiel. Oui.
On en reparlera de ça avec Michel Onfray, parce que c'est un peu au cœur du sujet.
Mais c'est vrai qu'il y a, dans ce livre, on voit apparaître la bêtise. Hein, la bêtise avec un grand B, le camp du bien, c'est qu'il y a le parti du camp du bien, le parti unique du bien, quoi, le PUB. Et on sent qu'on va quand même vers ce type de société où il y a le camp du bien a pris le pouvoir, et donc c'est les gens du bien, eux seuls doivent pouvoir s'exprimer. Non.
Ce livre, c'est aussi celui d'une rencontre entre une femme, Diane, c'est la narratrice, et un homme, Antoine Bradsock. Encore une fois, Bradsock.
C'est mon double.
C'est votre ersatz littéraire.
Un peu ridicule, évidemment. Je m'arrange pas. Hein, vous avez remarqué. Je pense que j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai pas ça à l'acheter parce qu'il est quand même très lâche.
Et
moi, on me dit plutôt que je suis de tête brûlée, donc je pense que voilà. Mais je pense que c'est important si vous voulez rire, si vous voulez moquer des autres, ce qui est le cas du livre. Je me fous de la gueule d'un certain nombre d'icônes et de grandes figures. Si on veut se foutre de la gueule du monde, je pense que c'est important aussi c'est pas pour me rehausser que je fais ça, c'est pour rigoler de tout et commençons par rire de soi-même.
En parlant livre, littérature, Aurélie Valogne était à votre place la semaine dernière, elle a une question pour vous.
Bonjour François-Olivier Gisbert, c'est Aurélie Valogne, j'avais une question pour vous, y a-t-il un livre qui a changé votre vie ?
Y a-t-il un livre qui a changé votre vie ? Demande la nouvelle star de l'édition.
J'ai envie de lui répondre plusieurs.
Ouais.
Plusieurs, il y a des livres qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Le Gai Savoir de Nietzsche, Les Pensées de Blaise Pascal, La Pesanteur et la Grâce de Simone Veil, la philosophe avec un W que j'ai lu quand j'avais... C'est un livre qui appartenait à ma mère, je devais avoir... 11-12 ans.
Vous voulez dire que c'est des livres qui vous ont structuré ?
Ah oui, 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 beaucoup, beaucoup. Alors, je dirais pas le premier livre que j'ai lu, qui est 93, à mon avis, j'ai rien compris, parce que j'avais 9 ans, de Victor Hugo, et c'est là que j'ai décidé de devenir écrivain pour raconter des histoires.
Ouais.
Et bon, voilà, donc, je dirais, si je commençais à vous donner la liste des livres qui m'ont marqué, je pense qu'on y passerait la nuit.
Non, bah non, non. Valognien. On va arrêter tout de suite.
Valognien ?
Ouais, 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 on va arrêter tout de suite, on va marquer une courte pause, parce qu'on a un invité accueilli. Dans un instant, c'est Michel Onfray. Ce sera après le rappel des infos et la météo signée Franz-Olivier Gisbert. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu de Franz-Olivier Gisbert.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et avant d'accueillir Michel Onfray, l'invité de Franz-Olivier Gisbert, l'essentiel de cette actualité dominée par une nouvelle nuit de colère, de manifestations et d'émeutes aux États-Unis après la mort lundi dernier d'un Américain noir lors de son interpellation à Minneapolis. Minneapolis d'ailleurs où un deuxième commissariat a été incendié hier soir. L'inculpation du policier responsable n'a pas calmé les esprits. La tension a d'ailleurs gagné d'autres villes. Washington, New York, Memphis, Dallas ou encore Houston, la ville d'origine de la victime. Un front républicain annoncé à Perpignan pour le second tour des municipales. La candidate écologiste, 14% des voix au premier tour, se retire. Un devoir de salubrité publique, dit-elle. C'est donc le sortant, le républicain Jean-Marc Pujol, qui défiera Louis Alliot, qui était arrivé en tête au premier tour. Une nouvelle mobilisation des salariés de Renault à Maubeuge devant l'usine qui est à l'arrêt depuis hier. Plusieurs milliers de personnes dénoncent le plan du constructeur. Suppression de 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. La poursuite du déconfinement dans les anciennes zones rouges, les parcs et les jardins sont de nouveau ouverts, les plages et les lacs devraient être accessibles progressivement à partir du 2 juin, date à laquelle d'autres restrictions seront levées, comme la suppression de la limite des 100 km. Mais elle est encore en vigueur ce week-end et attention, il y aura des contrôles, a prévenu Christophe Castaner. Et puis, symbole de la reprise du commerce, on peut de nouveau faire ses courses aux Galeries Lafayette à Paris. En tout cas, Santé publique France se veut confiant. Certes, 109 foyers d'infection ont été relevés, des clusters, mais pas de signaux de reprise de l'épidémie. C'est donc le journal inattendu de Franz-Olivier Gisbert. La météo, évidemment, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, la météo. France, est-ce que vous avez déjà réalisé cet exercice de nous donner la météo ?
Oh, ça a dû arriver.
Ça a dû
dans
arriver.
Ma vie, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait beaucoup de radio, d'ailleurs. Donc, alors, il fait beau, presque partout en France cet après-midi. Seul le sud-est aura un ciel plus incertain qui produira quelques averses entre le sud des Alpes et la Corse. Pour une fois, ouais. Dira-t-on. Hein. Et ça tournera à l'orage sur ces mêmes régions en soirée, mais aussi sur les reliefs pyrénéens et auvergnats. Les températures iront de 20 à 30 degrés entre la Lorraine et le Bordelais. Il fera 27 degrés à Paris et La Rochelle, 25 degrés à Marseille et un petit 19 degrés à Sisteron.
Oh ouais, ça fait pas chaud là-bas finalement.
Ah ouais. Bah oui, c'est... Bah,
tant mieux. J'adore pour les plantations. Sisteron, ouais, Sisteron c'est très joli.
Oui,
hein.
C'est très très beau.
Ouais.
Ah, le cadre est magnifique entre les Alpes là, qui sont là.
Vous êtes vraiment passé. Vous êtes vraiment un sudiste maintenant.
Bah, ça fait longtemps en fait. Mes parents avaient acheté une maison dans le Vaucluse quand j'étais jeune. Et voilà, dans ce petit village de Mérindol. Et oui, je suis du sud. Je suis du sud. J'ai aucune racine du sud, mais je suis du sud.
Alors évidemment,
bon, ça, ça nous change un peu de Rihanna, qui était votre premier choix. Panis Angelicus de César Franck pour Anna, sa trois voix, par René Fleming, la grande soprano.
Oui, alors moi, j'aime beaucoup le classique, hein. J'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup le rock, etc. Puis, y compris la variété française, mais j'aime beaucoup le classique, Brahms, bien entendu, que je place très haut. Mais je trouve qu'on a tendance à ne pas écouter assez souvent nos Français. Alors là, c'est ta petite minute patriote. Mais Gabriel Fauré, César Franck, et ça, c'est un morceau juste sublime, effectivement, chanté par René Fleming.
Panis Angelicus, donc de César Franck, voilà. Rendons aux Français un petit peu ce qui leur appartient.
Ben oui, ils en ont. On a des grands musiciens, bien sûr. Saint-Saëns aussi, on peut en parler. Et puis l'opéra, on touche notre bille aussi avec Massenet. Gounod.
On touche notre bille en opéra. Bon, il y a évidemment cet aspect musique sacrée. Vous êtes, je disais tout à l'heure, un chrétien hédoniste, Julien Green, que vous citez très, très souvent.
Qui a beaucoup compté dans ma vie. Beaucoup, parce qu'il m'a appris plein de choses. Et puis il s'est occupé de moi. Moi, comme écrivain, disons, c'est un peu mon maître. Voilà.
Alors, pourtant, vous avez voulu inviter quelqu'un qui est un athée sans concession aucune.
Oui, mais enfin, j'ai des doutes là-dessus.
Ah, on va lui demander. Il est avec nous. Bonjour, Michel Onfray.
Bonjour.
Je ne sais pas si on va vous poser la question, mais juste un instant, Franz-Olivier Gisbert, vous signez cette semaine dans Le Point un éditorial intitulé « Michel Onfray et les Inquisiteurs ». Michel Onfray est victime d'une inquisition.
Oui, puisque il décide de faire cette revue.
On va en parler.
Front populaire, qui est ouverte à des tas de gens. Il est souverainiste. Moi, je suis pas souverainiste. Je suis même anti-souverainiste connu. Et immédiatement, il y a un grand article dans un grand journal du soir, dit de référence, qui vous explique qu'il est antisémite. Quel est le rapport avec la choucroute? Enfin, je veux dire, ça, c'est cette façon qu'on a aujourd'hui en France, et il y a beaucoup de gens qui l'acceptent. C'est, on fait taire tout le monde. Toutes les voix différentes, toutes les voix discordantes, il faut les tuer, et ça, c'est inadmissible. Et moi, moi, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle, pour la liberté de penser dans ce pays. Même si ça devient de plus en plus difficile.
Vous l'avez lu, Michel Onfray, cet éditorial de Franz-Olivier Gisbert dans Le Point?
Alors, je ne lis rien de ce qui m'est consacré, mais je lis France, donc je n'ai pas pu ne pas le lire. Donc, oui, bien sûr, mais je connais la grandeur de France. C'est un grand libéral, vous savez, au sens anglo-saxon du terme. Et de fait, quand il dit qu'il défend la liberté, il la défend vraiment. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on est devenus amis, c'est-à-dire qu'il m'a défendu au moment où j'avais déjà le même genre de procès quand j'ai fait mon Freud,
Voilà, c'est ça. Lorsque vous avez fait le crépuscule d'une idole qui déboulonnait Freud, on a entendu beaucoup de psychanalystes, etc., qui sont montés au
créneau. C'est dingue.
Et vous l'avez déjà défendu. En fait, vous passez votre temps à défendre Michel Onfray.
Quand il est attaqué, de manière basse. C'est-à-dire, on fait des débats tous les deux, Michel et moi, et je vous assure, parfois c'est pas triste, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Moi je suis européen, et comme ça vous a pas échappé, l'Europe dite de Maastricht.
Vous aviez dit, c'est la religion des imbéciles quand vous parliez du souverainisme.
Oui, bien sûr, sur le souverainisme, j'y suis allé, et puis j'y suis allé à la truelle, à la hache, j'ai utilisé tous les instruments de la terre contre le souverainisme, même si je suis toujours resté souverainiste sur les cultures, sur la cuisine, sur les libertés, sur la santé.
Alors c'est intéressant.
Il y a quelques exceptions toujours.
Michel Onfray, évidemment, on va parler Front populaire, mais est-ce qu'on peut être souverainiste à géométrie variable, comme Franz-Olivier Gisbert? Prendre un petit peu de souverainiste pour là et pour ailleurs être libéral.
C'est le charme de France. il a inventé Macron avant Macron. Il est en même temps... il est en même temps athée et panthéiste. Je pense qu'on peut être souverainiste, ça veut dire simplement maître chez soi. Donc ça me paraît étonnant qu'on ait pu faire la critique d'une théorie qui consiste à dire depuis toujours qu'en France, il faut que la France soit maîtresse chez elle, ce qui n'exclut évidemment pas l'Europe. C'est-à-dire qu'en France, si je suis européen, moi aussi, et puis tout le monde est européen. Simplement, on n'est pas tenu de dire que la seule formule de l'Europe, c'est le libéralisme. On peut avoir une autre formule qui peut être, par exemple, celle du général de Gaulle.
Oui, mais alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si l'Europe n'est pas libérale et ne convient pas, ça veut dire qu'il faut sortir de l'Europe?
Non, ça veut dire qu'il faut sortir d'une Europe dans laquelle la souveraineté est européenne et dans laquelle, donc, la souveraineté n'est pas française.
C'est ce que tu viens de dire, il faut sortir de l'Europe.
Sortir de l'Europe libérale.
Comment rentrer dans l'Europe s'il n'y a personne pour la faire, l'autre? Parce que c'est ça le problème.
Mais ne marche pas déjà, cette Europe libérale.
Non, mais attends, l'autre, il n'y aura personne pour la faire. Donc c'est ça le petit souci, quoi.
Mais il y a tous les peuples qui veulent une Europe différente, tous les peuples. Simplement, quand il s'agit de l'Irlande, de l'Angleterre, du Danemark, on fait savoir que finalement ces gens-là se trompent et qu'il faut absolument maintenir cette formule libérale. En France, quand en 2005, on dit « bah non, on n'en veut pas », en 2008, vous l'aurez quand même. Donc non, je crois au contraire que les peuples veulent une autre Europe et que ce sont les gens de Maastricht qui estiment que c'est la seule formule et que si on n'en veut pas, on l'aura tout de même. C'est pourquoi d'ailleurs il y a ce problème avec les peuples en Europe et enfin, le soulèvement de ce qu'on appelle des populistes. Quoi.
Enfin, on peut quand même observer, Michel, que les peuples, globalement, quand on fait des sondages, quand on regarde les résultats des élections, ils sont plutôt européens. Globalement, c'est pas vrai des Britanniques, ça c'est vrai, on le sait maintenant clairement depuis le Brexit. C'est peut-être un petit peu moins vrai des Italiens, encore que c'est en train de changer. Enfin, voilà, il y a quand même un fond européen pour cette Europe-là. Alors, donc, quand on dit... moi, je comprends très bien le discours. Une partie du discours souverainiste, je dis, me convient très bien. Mais quand on dit, ah bah non, si c'est l'Europe libérale, il faut sortir, ça veut dire qu'il faut sortir de l'Europe. Moi, personnellement,
non,
ça me fait peur.
Non.
Moi, ça me fait peur.
Non,
ça me fait
peur.
J'aime l'Europe.
Il faut faire une autre Europe.
Mais oui, mais faire une autre Europe, ça veut dire... Je répète ma question.
Ouais, si elle n'est pas libérale...
Si elle n'est pas libérale, on n'en veut pas. Donc, on sort.
Non, ah non,
moi je
ne
veux pas qu'on sorte. Je ne veux pas qu'on sorte.
Mais non. Mais si on veut prendre une métaphore que les gens comprendront facilement, moi j'habite dans un appartement, dans un immeuble, oui. Je veux bien qu'il y ait une copropriété, mais je veux pas que la copropriété décide de ce que je mange, des horaires de mon lever, de mon coucher, de la nature de mon frigidaire, si je dois le remplacer, si je dois
on est d'accord là-dessus,
la...
bah oui, évidemment. Bah, on est d'accord là-dessus, bien sûr.
Et bien, c'est la même chose.
Et puis vive les fromages et les fruits.
Là, j'ai bien compris. Michel Onfray, vous lancez un MOOC, hein, c'est mi-chemin entre le magazine et le livre, le book et le magazine, Front Populaire. Donc, outils pour mener ce combat des idées pour la souveraineté. Ce qu'on vous reproche, c'est l'agrégat de souverainistes de gauche, de droite, voire parfois d'ultra-droite. C'est ça aujourd'hui le reproche qui vous est fait et que vous n'acceptez pas ?
Mais il y a quand même quelque chose d'assez formidable, c'est que je pense qu'il ne vous arriverait pas, il ne vous viendrait pas à l'esprit l'idée de critiquer un film que vous n'auriez pas vu.
Non.
De critiquer la cuisine d'un grand cuisinier chez qui vous ne seriez pas allé.
Ouais.
De dire que, par exemple, vous détestez les œuvres de César Franck si vous n'avez jamais entendu César Franck.
Ouais.
Eh bien, c'est ce qui nous arrive, qui en passant était belge, France.
Ah bon, il est francophone.
Ah non, mais attends, les Belges et les Français, mais... c'est la même chose.
Ouais,
hein. Bah, attends.
Ouais.
Et je rajoute les Suisses et les Québécois.
Si tu veux bien, ce qui nous arrive avec la revue, c'est que personne ne l'a lu sauf 10 personnes, et encore même pas, tous ceux qui y travaillent. C'est-à-dire que c'est une revue pour l'instant invisible. Elle est totalement invisible, on n'en connaît que le titre. Et vous avez des gens qui nous expliquent ce que c'est que cette revue. Ils n'ont pas lu, mais ils sont éminemment critiques. À quoi j'ajoute un truc quand même formidable, c'est-à-dire qu'effectivement on a donné le nom de nos 1000 premiers abonnés, on en a 20 000 aujourd'hui. Et dans le nom des abonnés, il y a effectivement machin, bidule, un tel, etc. Et on dit de ces abonnés qu'ils sont des contributeurs. Mais c'est totalement faux. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen lit Le Monde, il y a une photo de Marine Le Pen en train de lire Le Monde n'est pas devenu pour autant un journal le péniste.
Ouais. Donc, c'est uniquement des gens qui sont abonnés. Voilà.
Bah, écoutez, vous...
Voilà, bon, bah, j'espère qu'on...
On fait le reproche de nos abonnés.
On l'aura vite entre les mains, hein, comme ça on pourra en parler en toute connaissance.
Il y a toujours l'insulte suprême, là. Ouais. Il y a droit régulièrement, Michel Onfray, parce que dans d'autres papiers, précédemment, il était pédophile, je sais pas quoi, etc. Et là, l'antisémite. Alors, ça, c'est. On cherche, on trouve pas. Il n'y a aucune trace, il n'y a rien, mais c'est l'insulte. Voilà. Pour faire taire les gens aujourd'hui.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir
été. Merci beaucoup,
Michel Onfray.
C'est formidable dans l'exercice de la météo. Pour une fois, il annonce des choses qui vont avoir lieu.
Excellent. Merci. Merci beaucoup, Michel Onfray. On marque une courte pause et puis dans un instant, justement, on se retrouve avec notre expert en météo, Franz-Olivier Gisbert.
Nos magasins. Franz-Olivier Gisbert est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile.
Thank you.
Christophe, les mots bleus en live à l'Olympia. Vous l'avez vu en spectacle
Oui, je crois que j'étais là ce soir-là. D'ailleurs. Ouais, à l'Olympia, parce que je l'ai vu souvent en spectacle, évidemment. J'adorais, parce que c'était un immense artiste, perfectionniste comme c'est pas permis.
Sensible.
Il y a peu de
d'une
temps.
D'une sensibilité.
Oui, oui. Inouïe. Mmh. Et complètement à côté, braque, quoi. Mmh. Et la dernière fois, j'étais le voir à Pleyel et à la fin du spectacle, je vais le voir, je lui dis ce truc que t'as dit, là, quand même, entre la chanson, pour annoncer cette chanson, là, c'était quand même pas terrible et tout. Il me dit arrête, j'ai préparé, j'ai récité. C'est-à-dire, il y avait tout était.
Rien improvisé.
Ouais. Et c'était un artiste formidable, c'était une belle personne. Ouais. Et vous voyez, moi, cette chanson que j'écoutais tellement souvent, comme plein de gens, parce qu'elle est magnifique, c'est une des plus belles chansons françaises. Eh ben, je sais que maintenant, c'est nouveau, parce que c'était pas le cas avant, et je crois que ça risque d'être comme ça maintenant, toujours. Quand je l'entends, mais quand j'entends cette chanson, mes yeux sont. Voilà, mes yeux rougissent, et voilà.
On a les poils qui se dressent, effectivement, on est très émus.
Je pense à lui, oui, parce que c'est. Bah, c'est la grande victime du Covid. Enfin, il y a eu plein d'autres, il y a eu plein de catastrophes, plein de tragédies familiales, mais. Celle-là aussi, c'était une tragédie pour beaucoup d'autres.
C'est pas la vie qui est éternelle, c'est la mort, faites-vous dire à Antoine.
Bah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, mais enfin, il faut aussi accepter la mort.
Ouais, bah oui.
Et c'est ça qui est bien fait dans la vie. C'est que je pense qu'on refuse la mort quand on est jeune. Et au bout d'un certain temps, c'est l'âge que j'ai atteint aujourd'hui, que c'est l'âge de la sagesse d'une certaine manière. On l'accepte.
Mmh. Bah justement, tiens, vous avez aussi choisi cette scène. C'est à la fin des choses de la vie. Alors c'est avant l'hôpital.
Ah ouais, c'est une scène, c'est énorme.
Je sais pas. Ils ont détraqué la musique de l'orgue parce que le musicien s'est endormi. Il s'est endormi. Le musicien.
Voilà, Piccoli. La mort, c'est la mort en direct, là. C'est cette scène est incroyable.
Incroyable. Et en général, c'est toujours raté, dans les films ou dans les livres. Et là, c'est une réussite totale. C'est un très beau livre, Les choses de la vie de Paul Guimard. C'est, comment dire, une adaptation formidable, les films de Claude Sauté. Et puis là, il faut parler aussi de Jean-Louis Dabadie, qui nous a quittés, qui vient de nous quitter aussi, comme Piccoli, comme Christophe.
Ça a été une dure
oui,
période,
oui, comme
là.
Guy Bedos, il faut que ça s'arrête, là. Parce que les années 70, 80, ils sont sacrément déplumés, là, depuis quelques temps. Et on se sent bien seul. Et c'est vrai que Piccoli aussi, c'était... quel acteur incroyable, c'était... Fallait le voir au théâtre, qu'est-ce qui déménageait. Et ce moment-là est un moment très fort parce qu'on y croit. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu aussi, c'était... Et puis évidemment, ce film-là, on l'a vu tous 5-6 fois. Parce que... Et même s'il est un peu vieilli, parce que bon...
Ouais, mais ça se regarde encore très,
ça se regarde
bien.
Encore. Ouais. Il est un peu vieilli parce qu'effectivement, le démarrage, bon, il est très content de, disons, des cabrioles de, je sais plus qui a dû les faire, quand, l'accident, quoi.
Oui, bon, oui, bien sûr, oui.
Les ralentis, tout ça, tout ça a pris un petit coup de vieux. Ouais. Mais quel beau film.
On fait mieux les effets spéciaux aujourd'hui. Ouais.
Quel beau dialogue.
Ouais. Ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause dans un instant. J'ai envie de vous faire une petite surprise. Allez, à tout de suite sur RTL.
Faire.
Le journal inattendu de Franz-Olivier Gisbert, avec Vincent Parisot sur RTL.
We were too young to understand, to ever know. Then lovers drift apart, and that's the way love goes. A love so beautiful.
Voilà, The Voice, c'était pas seulement Sinatra, quand même.
Ah oui, Orbison, c'est quelque chose. Et ça, c'est mon petit côté à Merloc.
Ouais.
Orbison. Parce que c'était le grand copain de Johnny Cash, qui était mon héros de mon enfance.
Ah, oui.
C'est Roy Orbison, il a pas l'air comme ça, avec sa voix comme ça, mais c'était le grand copain de Bob Dylan aussi. Mmh. Ils ont fait des chansons ensemble. Et voilà.
Bah, c'est un vrai moment de grâce, cette chanson, donc vous l'écoutez souvent.
Je l'ai redécouvert récemment, Love So Beautiful, et je l'écoute tout le temps.
Là, ça, c'est la version avec le Royal
Royal Philharmonic Orchestra. Dernier été, donc, c'est votre livre, Hans-Olivier Gisbert, l'histoire d'un homme, Antoine Bradsock, qui va mourir, qui prépare sa mort. Et à un moment, vous parlez de...
Mais on se marre tout le temps.
Mais on se marre tout le temps. Non, mais je tiens à le dire que c'est drôle.
Tout ça est drôle.
Non, c'est drôle. Et à un moment, vous allez voir si on se marre, on parle de l'Ankou. Vous savez, ce personnage de la mythologie bretonne qui arrive avec sa faux à la main. Et vous citez celui qui vous a raconté cette légende celtique, cette
Olivier
de
Kersauzon.
C'est votre pote.
Je l'adore.
C'est vrai, vous savez qu'il est à l'autre bout du monde en ce moment.
Oui, bien sûr. Ouais. Je l'ai de temps en temps au téléphone.
C'est vrai, il y a un décalage quand vous lui parlez.
Oui, gros décalage. Oui.
Bonjour Olivier de Kersauzon.
Oh bonjour.
Bonjour mon Olivier.
C'est bon. Ça va.
Et toi?
Magnifique.
T'as pêché ce matin là?
Non. Et puis il y a pas de vent. Quand il y a pas de vent, il y a pas trop de poissons. Puis en ce moment, j'ai pas trop envie, non. Mais là, je profite de la nuit. Il y a plein d'étoiles. Il fait beau. Il y a le bruit de t'entends le bruit du récif au loin. C'est magnifique. Je suis content. Hein.
Alors si vous doutez du monde, hein, voilà, faut appler Kersauzon.
Il est 1h30 du matin là où vous êtes à Tahiti. C'est ça?
Oui, exactement. Cette Polynésie en forêt.
Oui. vous côtoyez quand même souvent, j'ai l'impression, avec Franz-Olivier Gisbert. Vous connaissez depuis 40 ans, c'est ça? C'est 40 ans d'amitié?
30, 40 ans. On a fait beaucoup de conneries ensemble, hein. Tu te rappelles?
Racontez-nous juste une connerie, peut-être, Olivier de Kersauzon, un souvenir avec Franz-Olivier Gisbert.
J'ai beaucoup plus âgé que Franz et je suis en train de trottiner en bordure des frontières d'Alzheimer, je ne me souviens de rien du tout.
Oui, je crois qu'il faut mieux, non? Parce que oui. On va avoir des problèmes, hein, sinon.
Vaut mieux, mais cela dit, on a
un... Ah oui, en plus attendez, Olivier est converti à la fidélité. Hein.
Ah oui,
très amoureux, comme moi.
Bah justement, à ce sujet-là, les femmes... Un petit extrait des grosses têtes, c'est Olivier de Kersauzon qui parle.
Moi, je le connais depuis 40 ans, le Gisbert.
Hein. Il y a des dossiers. J'avais vu faire des dégâts, moi.
Mais c'est vrai que Franz, vous êtes trop chaud, là, faux.
C'est un grand honneur, le pépère.
Voilà. C'est un grand honneur, là, il parle des femmes, hein, évidemment. Vous partagez ça, d'ailleurs, comme passion, la passion des femmes, Olivier de Kersauzon, avec Franz-Olivier Gisbert?
Ah, je vous entends pas du tout.
Ah, c'est dommage. Alors,
mais c'est pas une...
D'accord, ok.
On considère que c'est intéressant, oui.
Oui, mais...
C'est intéressant, un monde sans femme et un monde un peu triste.
Mais tu peux dire que t'es devenu très fidèle, quand même, aujourd'hui?
Ben, c'est un des rares trucs que j'avais jamais fait.
Ça change.
Tu es devenu très très fidèle depuis longtemps déjà.
Ah ben oui, ça fait 10 ans.
Hein, c'est incroyable. Et moi pareil.
Et vous, François?
Oui, un peu plus que lui.
Vous avez eu plusieurs vies, François.
Oui, bien sûr. Oui, ouais. Bah oui. Beaucoup, mais ça c'est bien. On regrette jamais ces conneries, hein, ouais. Olivier, c'est vrai qu'on regrette jamais les conneries qu'on a pu faire.
Ben, les conneries celles qu'on fait nous coûtent moins cher que celles qu'on fait pas. Alors ça, c'est une certitude, par contre. Ça, je crois que tout celles qu'on peut faire, faut les faire.
Ah ouais, parce que sinon, on en paye le prix. Vous enviez la vie d'Olivier de Kersauzon, Franz?
Oui, bien sûr. Ouais. J'aurais jamais eu son courage. Je pense à lui au Cap. Souvent, quand je l'écoute comme ça, je pense à lui au Cap Horn. Les vagues de combien? Les plus grosses vagues que tu as pu affronter, Olivier? Elle faisait combien?
1m30.
Non, ça c'est les miennes.
Ça c'est le ferry boat. C'est combien... le ferry boat dans le port de Marseille. Ça, voilà.
Combien l'étage?
Si tu peux trouver des conditions de mauvais temps, tu peux avoir des 17, 18 mètres de creux, un peu plus parfois. Il faut faire attention.
Ah ben, il faut faire attention,
mais
c'est sûr.
Mais c'est très difficile de parler de ça parce que il y a la beauté de ce métier, donc il y a tellement de compensations, il y a tellement de moments d'émotion, tellement de joie à naviguer et tout, que c'est pas pour les quelques secondes de terreur qui peuvent obscurcir le parcours d'une vie. Le reste du temps, c'est magnifique. Donc c'est comme si on parlait que ces craintes, quoi. Ces craintes, c'est pas grand chose, c'est quelques heures en une vie, alors que le reste du temps, la vie qu'on mène est magnifique. Et puis quand je rentre à terre, je tends l'oreille au verbe sacré que formule France. Vous vous rendez compte de la richesse de ma vie?
Oh bah ça, j'imagine. On va vous laisser à votre ciel étoilé de Tahiti. Je suis sûr que France va vous envoyer Dernier été.
Oui,
son dernier livre. Je sais pas combien de temps ça va mettre pour arriver.
Peut-être 2-3 ans.
Voilà. À très vite, évidemment, sur l'antenne d'RTL, Olivier de Kersauzon, avec vos cartes postales dimanche matin. Et puis à très bientôt aussi sur l'antenne d'RTL, François-Olivier Gisbert. Je n'en doute pas. En attendant, on va parcourir ce dernier été qui est sorti chez Gallimard.
Un dernier été pour rire.
Ah ben évidemment, pour rire. Et on rit beaucoup malgré la canicule et le Covid. Merci beaucoup. C'était un régal.
Merci à vous.
À la semaine prochaine. Et dans un instant, vous retrouvez Jean-Alphonse Richard pour un confidentiel consacré à Rod Stewart.
RTL. Le journal inattendu.